On continue notre parcours à travers le prophète Ésaïe et on a un chapitre encore très intéressant. Chaque fois, je découvre des merveilles dans ce prophète. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière pour bien situer ce que nous avons déjà vu. David l'a déjà fait avec le chapitre 45, où tout genou fléchira devant Dieu, donc Dieu devenu homme en Jésus. Et nous avons vu, entre les chapitres 44 et le chapitre 46, que 8 fois, le prophète rapporte les paroles de Dieu, « C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » 8 fois, en 3 chapitres. Et nous avons aussi vu au chapitre 46 que les Babyloniens, eux, ils disaient, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne me débrouille tout seul, je suis le maître du monde, l'empereur babylonien, j'ai pas besoin de Dieu. Un petit peu incohérent quand même, parce qu'en fait, ils se fiaient quand même à ses idoles. On a parlé la dernière fois de Bel ou Baal ou Marduk et de Nebo, et nous avons vu que même s'il disait il n'y a que moi et personne d'autre, le prophète Ésaïe a dit au chapitre 47, donc de la part de l'Éternel, en s'adressant à Babylone, tu t'es épuisé à force de consulter les devins qui se présentent donc et te sauvent, les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début du mois ce qui doit t'arriver. Donc, on va dire qu'ils sont un petit peu incohérents, parce que d'une part, ils disent « on se débrouille tout seul », mais ils font appel à ces idoles pour les protéger, pour leur montrer l'avenir, pour les sauver. Donc, on a vu qu'il y a quand même, au chapitre 47, une grande différence, au chapitre 46, parce que Ésaïe ironise pour dire on place ces statues sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Donc il y avait des cérémonies à un certain moment, on prenait ces idoles, on les promenait dans la ville, on faisait une grande cérémonie et ils étaient obligés de porter ces idoles. Mais Dieu dit au verset 3, moi, c'est différent. Il dit, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Et jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Donc, la grande différence entre les idoles qu'on devait porter, mais le vrai Dieu, l'Éternel, qui nous porte. Donc, grande, grande différence. Et la conséquence... Et là, j'arrive au chapitre 48, un verset au milieu que l'on va lire tout à l'heure. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » C'est Dieu seul qui mérite notre louange, notre reconnaissance, notre gratitude, à lui seul l'honneur. Donc, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et nous allons voir, on va arriver à la fin de notre message à cela, c'est-à-dire que nous, notre vie, c'est de vivre dans la réalité de Dieu autour de nous, de faire son éloge pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Donc voilà ma conclusion, mais on va voir cela à travers ce chapitre 48. Mais en fait, on va voir ce chapitre 8 sous deux angles. Le premier angle, c'est que, encore une fois, comme nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents, Dieu prouve qu'il est le seul Dieu par sa capacité de prédire l'avenir. Et il peut le prédire parce que c'est lui qui crée l'avenir. Donc, tout en plus, il a le pouvoir de conduire l'histoire, c'est lui qui fait arriver des choses, et donc il peut le prédire. Et donc tout le temps, dans les chapitres précédents, il a fait appel en quelque sorte au peuple pour dire, mais faites venir vos idoles, hein, qui vous annoncent vraiment l'avenir, hein, s'ils sont capables de le faire. Mais Dieu le fait, et nous l'avons déjà vu, c'est que Ésaïe annonce un siècle et demi avant l'événement, l'arrivée du roi Cyrus, qui va, lui, conquérir Babylone, et changement de décor, parce que si les Babyloniens vont faire venir les responsables d'Israël, tous les dirigeants, tous les gens qui ont un métier, ils vont les déporter à Babylone. Le roi Cyrus va leur permettre de revenir à Jérusalem. Et on a bien fait parce que depuis plusieurs semaines, on fait ça aux études publiques le mercredi soir. Et donc, non seulement il a permis que le peuple revienne, mais que le peuple puisse reconstruire le temple que les Babyloniens vont détruire. Et la deuxième chose, et c'est la deuxième partie de notre message de ce matin, c'est qu'il y a tout un enjeu symbolisé par ces deux villes, Jérusalem et Babylone. Mais on va d'abord parcourir assez rapidement le chapitre pour voir la première chose. Dieu prouve qu'il est le seul Dieu par sa capacité de prédire l'avenir. Et après, on va revenir à la deuxième chose, qui va être une sorte de longue conclusion de ce chapitre. Les deux villes, Jérusalem et Babylone. Donc, Dieu prouve qu'il est le seul Dieu par sa capacité de prévoir, de prédire l'avenir. Je vais lire les versets de 1 à 11 d'Ésaïe 48. Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, qui êtes issus de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. Hein. Parce que s'ils avaient été déportés, c'est parce qu'ils avaient péché. En effet, donc ces gens-là tirent leur nom de la ville sainte, donc c'est Jérusalem, et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche. Je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi, ils se sont produits. Sachant que tu es endurci et que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze, je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faits ». C'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnées. Tu as bien entendu tout cela, constate-la. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi, tu ne pourrais pas dire « je le savais déjà ». Non, tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su, et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc j'ai mis comme titre, Dieu a envoyé son peuple en exil, il le rachète pour qu'il soit glorifié aux yeux de tous. Donc il parle de son peuple, qui évoque le nom de Dieu, qui tire sa gloire du fait qu'ils sont le peuple d'Israël. Mais la fin du verset 1 dit, sans sincérité ni droiture. On dit même que tu es endurci, ton cou est une barre de fer. Pourquoi il dit ça? Parce que devant Dieu, on doit plier les genoux, baisser la tête. Mais si le cou ne baisse pas, ça veut dire qu'on se dit, moi je me débrouille tout seul. Il n'y a pas cette humilité donc, de baisser la tête. Et Dieu donc annonce que les choses vont se passer pour que personne ne puisse dire, c'est mon idole qui me l'a dit. Il annonce longtemps à l'avance pour qu'on sache bien que c'est Dieu. Et on voit au verset 9 que ce que Dieu veut, c'est la louange qui lui est due. On devrait louer Dieu et personne d'autre, surtout pas les idoles. Vous vous rappelez ma définition de l'idole que j'ai donnée il y a quelques semaines. Tout ce à quoi on accorde sa confiance et son affection plutôt qu'en Dieu. Et souvent, c'est les biens matériels ou c'est sa réussite propre, etc. Et Dieu dit, Dieu parle de cette déportation, de cet exil à Babylone, et a dit, c'est comme je t'ai affiné au creuset. Donc, il faut comprendre la chose parce qu'il a dit, bon, c'est pas pour retirer l'argent. Le creuset, c'était une sorte de récipient dans lequel on faisait chauffer à blanc un métal précieux comme l'argent. Et à force de le faire fondre, toutes les impuretés montaient à la surface. Il n'avait qu'à enlever les impuretés et puis laisser baisser de nouveau la température et le bloc d'argent était encore plus pur. Vous voyez comment ça se passait. Et Dieu dit, Israël, Babylone pour toi, c'est comme un creuset. C'était difficile, tu étais loin de ton pays, tu n'avais pas de temple. C'était un creuset horrible. Mais je l'ai fait, pas pour retirer l'argent, mais pour que je sois honoré, pour que je sois la louange de mon peuple. À cause de moi seul, je l'ai fait, il dit au verset 11, parce que comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, s'il a traité ainsi son peuple, c'est pour les purifier. Donc, ça, c'est les versets 1 à 11. Maintenant, versets 12 à 15, Dieu rassemble le jury. Je vais lire les versets 12 à 15. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle, ils se présentent tous ensemble. Vous tous, donc, ciel et terre, toutes les nations et tout, vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela ? Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. C'est moi qui ai parlé, qui l'ai appelé, j'ai fait venir et son entreprise réussira. Donc là encore, c'est très étrange. C'est encore Cyrus dont il est question. Et dit celui que j'aime. Bon, on peut dire que Cyrus représente autre chose, tous ceux qui libèrent le peuple. Je ne vais pas aller dans ce sens ce matin. Et dit donc, je rassemble le jury pour qu'ils entendent. Alors, décidez. C'est qui annonce les choses à l'avance? C'est l'Éternel ou ce sont les idoles? Donc, il appelle le jury à se prononcer. Bah, la réponse est simple. Il n'y a pas photo, comme on dit. C'est l'Éternel qui a annoncé longtemps à l'avance ce qui devait arriver. C'est pour cela que maintenant Dieu appelle de nouveau à la repentance. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais à plusieurs fois, Dieu dit « Écoutez ». Verset 1, « Écoutez, famille de Jacob ». Verset 12, « Écoute-moi, Jacob ». Verset 16, « Approchez-vous de moi et écoutez cela ». Donc, un appel à l'écoute de Dieu, et quand on écoute Dieu, et quand on se rend compte que son comportement n'est pas juste, on doit se repentir, ça veut dire changer de pensée par rapport à sa vie. Donc un appel à la repentance, suivi de promesses de bénédiction, si on se repent. Donc, je lis les versets 16 à 19. Approchez-vous de moi, écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela se produira, je serai là. Et maintenant, le Saint et l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Mais si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve. Ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait parée au sable. Tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Alors, je ne sais pas, il y a un chant que l'on chante des fois, donc, qui est évoqué comme un fleuve immense. Donc, la paix du Seigneur, bon, ça vient de ce verset-là. Hein. De verset 18, « Ta paix serait pareille à un fleuve, à condition d'écouter et de se laisser instruire. » Donc toujours cet appel au peuple, et si j'ai été assez rapide en sortant, en lisant tous ces versets, c'est parce que nous avons déjà vu cette même annonce depuis quelques chapitres. L'Éternel seul connaît l'avenir. Il va faire revenir son peuple en Israël. Il va reconstruire le temple de Jérusalem. Donc tout cela, on a déjà vu. Et maintenant, on arrive au moment où cela doit se faire, avec une insistance joyeuse. Maintenant, sortez de Babylone. Ça, c'est la fin de ce chapitre. N'ayez pas peur. N'hésitez pas à quitter Babylone. Cet appel n'était pas de trop, parce que au moment où le peuple d'Israël est revenu de Babylone, on l'a lu le mercredi soir dans Esdras, ils étaient plusieurs milliers à sortir, mais tous n'ont pas quitté Babylone. Un certain nombre de Juifs y sont restés. Et historiquement, il y avait des synagogues à Babylone beaucoup plus tard. D'ailleurs, il y a des papyrus qui viennent de là-bas, extrêmement intéressants pour retracer l'histoire du peuple d'Israël et pour confirmer, conforter l'existence des écrits de l'Ancien Testament. Donc, ils ne sont pas tous partis. Certains, je crois qu'ils avaient bien réussi leurs affaires, ils vivaient bien, c'était... on va dire des immigrés qui avaient bien réussi leur vie, ils avaient peut-être des entreprises, de belles maisons, alors quitter tout cela pour rentrer dans une ville détruite à Jérusalem n'était pas évident. Hein. Et c'est pour cela que on peut aussi écouter cet appel à sortir de Babylone, et on va le faire dans une deuxième partie, la conclusion donc de notre message de ce matin, de sortir de Babylone. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? J'anticipe. D'abord, lisons ces versets 20 à 22. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens, d'une voix triomphante. Révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Mais il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Donc, c'est un triomphe de pouvoir sortir de Babylone. Et avec le vocabulaire de l'Exode, Dieu dit, « Ok, vous devez partir de Babylone pour aller à Jérusalem. » Je crois qu'on avait calculé plus de 1000 kilomètres. Beaucoup à pied ou assis sur des ânes, à travers des régions inhospitalière, et puis voilà, il dit, pas de problème, ils n'auront pas soif dans les déserts, l'eau sortira du rocher, pas de problème. Vous pouvez rentrer à Jérusalem, en triomphant parce que Dieu vous a libéré. Le peuple d'Israël avait compris leur faute et ils avaient rejeté les idoles. Il n'y avait que les Babyloniens qui étaient idolâtres à la fin. Mais il n'y a pas de paix pour les méchants. Ceux qui veulent continuer à s'appuyer sur les idoles n'auront pas cette paix profonde dont il est question au verset 18. Alors, ayant parcouru cela, j'aimerais en fait essayer de faire sortir le message un peu pour nous avec cette réflexion que l'enjeu est symbolisé par deux villes, Jérusalem et Babylone. Jérusalem est déjà nommée sans être nommée, on parle de la ville sainte, au verset 2, que le peuple d'Israël qui tire le nom de la ville sainte, qui s'appuie sur le Dieu d'Israël. Le semeur dit, vous vous dénommez ceux de la ville sainte, la ville où Dieu réside, en écoutant les psaumes, la ville où les exilés désirent retourner. En quelque sorte, c'est chez eux, ils rentrent chez eux. Entre chez eux. Et la deuxième ville, donc Babylone, où on dit « sortez de Babylone », Babylone qui représente dans la Bible l'humanité qui s'organise sans Dieu et contre Dieu. Vous vous rappelez, il n'y a que moi et personne d'autre. Donc Babylone s'organise sans Dieu. Donc on voit déjà cet enjeu jusque dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Les chapitres 17 et 18 parlent de Babylone et le chapitre 21 de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux. Et c'est extrêmement intéressant parce que jusqu'à la fin, donc nous compris, cette même opposition est là entre Jérusalem et Babylone. Ou on veut dire entre le peuple de Dieu et ceux qui essaient de vivre sans Dieu. Ils peuvent parler de la laïcité, par exemple. Ma définition, après bien des années de réflexion, c'est la laïcité. On fait semblant qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, c'est une façon de le dire un peu polémique, mais finalement, on fait semblant, dans un certain moment, qu'il n'y a pas de Dieu. Mais le chrétien sait qu'il est Dieu, et le chrétien est chez lui. Dans ce sens, parce que nous appartenons déjà au Seigneur, on fait partie de son peuple. Je vais lire quelques versets dans Apocalypse 17 et 18. Et Apocalypse 21, juste pour rappeler. Ce qui est intéressant dans Apocalypse 17 et 18, c'est que cette fin du monde montre Babylone comme étant surtout une ville de commerce. Tout passe par le commerce, tout passe par l'argent. Par exemple, le verset 11, les marchands de la terre pleurent, parce que Babylone tombe, hein, et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison. Ou le verset 19, il se jetait de la poussière sur la tête, il criait dans les pleurs et le deuil, « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sous la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. » Et je n'ai pas pointé ça la semaine dernière parce que je voulais le garder pour cette semaine, mais le dernier verset du chapitre 47, en parlant de Babylone, dit « Voilà tout ce que peuvent t'apporter ceux qui t'es fatigué à consulter les idoles, ceux qui ont fait des affaires avec toi, depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. » Donc là déjà, au chapitre 47, on parle de ce côté commercial de Babylone. Et puis dans Apocalypse 21, la Nouvelle Jérusalem. Je peux lire par exemple le verset 10. Dieu me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Et puis on parle des perles précieuses, on parle des 12 fondations, porter les noms des 12 apôtres, de l'agneau. Et puis voilà, il y a toute une description de cette nouvelle Jérusalem qui est en fait notre destin, notre destinée finale. Dieu prépare cette nouvelle Jérusalem qui sera notre lieu de résidence éternelle. Mais il y a quand même une tension quelque part. Je vais revenir à des choses que j'ai déjà dites au cours des derniers mois, parce que ça me semble important de le redire. D'abord, quelle est cette tension? C'est que nous, aujourd'hui, on vit comme citoyens de Jérusalem, mais on vit dans Babylone. Donc, si on voit le côté symbolique, nous sommes déjà citoyens de Jérusalem, mais nous vivons à Babylone. Et c'est intéressant parce que dans Philippiens, on a cité le chapitre 2 tout à l'heure, mais je vais citer deux autres versets. Le tout premier verset qui dit, c'est les salutations du début, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les chrétiens en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc ils habitent bien Philippe. Mais au chapitre 3 et le verset 20, Paul dit, quant à nous, notre citoyenneté est dans le ciel. Donc nous sommes citoyens du royaume des cieux, pour citer le Semeur. Donc nous sommes à la fois, bon, ils étaient citoyens de Philippe et citoyens du royaume des cieux. Nous sommes citoyens de la France, de Paris, et citoyens du royaume des cieux en même temps. Nous vivons dans ce monde, Babylone, où les gens cherchent à tout faire sans Dieu, mais nous vivons comme citoyens du royaume de Dieu, déjà en essayant de tout faire pour la gloire de Dieu. Hein, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit le Seigneur. Et pour illustrer cela, je vais revenir à un texte sur lequel j'ai prêché, je crois que c'est le 14 février de cette année. Donc, je sais que vous avez tous en mémoire exactement tout ce que j'ai dit. Non. Où j'ai prêché, c'est 2 Corinthiens 6. Pourquoi je vais dans 2 Corinthiens 6? Parce que 2 Corinthiens 6 cite Ésaïe 48, 20, que nous venons de lire. « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. » Okay? Donc, je pars de Ésaïe 48 pour voir ce que dit le Nouveau Testament par rapport à ce verset. Donc, vous pouvez chercher maintenant 2 Corinthiens, je ne vais pas revenir dans Ésaïe. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et je vais lire du verset 16 jusqu'au premier verset du chapitre 7. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu et les idoles. Pardon. Non, j'ai soutenu. En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles de le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc c'est la citation de Ésaïe 40-20, mais aussi Ésaïe 52, 11 et 12, que nous verrons Dieu voulant par la suite. Alors, on peut se dire, mais comment on va vivre cela, cette tension entre citoyens d'ici et citoyens du royaume de Dieu. Trois réflexions à partir de 2 Corinthiens 6. D'abord, le contexte ne nous permet pas la pensée de couper tout lien avec les autres. On vit dans ce monde, déjà dans 1 Corinthiens. Paul a écrit pour dire, je ne vous ai pas dit de couper tout contact avec les non-chrétiens, autrement il faudrait sortir de ce monde. On vit dans ce monde. Si vous allez acheter du pain, vous achetez le pain chez quelqu'un qui n'est peut-être pas chrétien. Bien. Bon, il est là pour le service. J'allais dire quand vous allez dans le bus, mais il n'y a peut-être pas de bus en ce moment. Mais enfin, dans tout ce qu'on fait, on vit dans ce monde. On ne peut pas se séparer du monde. On est dans ce monde. Et Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, malgré tout. Et ici, dans 2 Corinthiens 6, c'est juste après 2 Corinthiens 5, et les versets 19 et 20 disent, « Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, un ambassadeur est envoyé dans un pays étranger pour représenter son gouvernement. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes envoyés comme ambassadeurs dans ce monde, depuis le royaume de Dieu, pour être témoins de Jésus, pour être ambassadeurs, et pour dire aux gens, mais soyez réconciliés avec Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des contacts avec des personnes autour de nous. Non seulement parce que Dieu veut que l'on vive dans ce monde, mais il veut que l'on vive dans ce monde pour être ses témoins. Le jour où nous nous convertissons à Dieu, le jour de notre nouvelle naissance, Dieu ne nous a pas enlevés de ce monde. Autrement, il n'y aurait plus de témoins dans ce monde. Donc, voilà. Ce contexte n'est pas sortir de Babylone pour n'avoir aucun contact avec les non-chrétiens. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même sortir du monde pour commencer le long voyage vers notre patrie céleste. Hébreux 11 dit que nous sommes voyageurs, étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers ici. Et nous avons quand même un long voyage à faire jusqu'au jour de notre mort vers cette patrie céleste. Donc, et pendant ce temps-là, on va sortir de Babylone. Non pas de ce monde, mais de sa façon de penser, de sa façon de se conduire. On est différent. Donc, on va sortir, mais avec joie, pour le faire, avec joie. Tout cela utilise le langage de la sortie de l'Égypte, parce que le peuple d'Israël avait un long voyage à faire. Eux, ils n'ont pas bien fait ce voyage. Je pense que nous, l'appel, c'est d'apprendre à mieux faire notre voyage, dans la confiance, dans la joie, dans l'éloge de Dieu. Deux autres versets, juste pour que l'on comprenne bien. Dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, il y a la définition du monde. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas de quitter le monde, il s'agit de notre comportement dans ce monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, et voilà la définition, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce n'est pas la peine de s'accumuler des tas de lingots d'or, parce que dans la Jérusalem céleste, les trottoirs sont faits d'or, donc ça n'a pas tellement de valeur. Donc, nous, on doit lutter contre l'idée que ce que représente ce monde, c'est ça qui nous apporte le vrai bonheur. C'est la relation avec Dieu, dans la joie qui est important. Jésus le dit également dans Jean chapitre 17, la prière qu'il fait pour ses disciples et pour ceux qui vont croire à cause de leur témoignage. En fait, je vais lire de 15 à 18 en fait. Jésus prie Dieu pour nous. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde. Il aurait pu demander que l'on soit retiré. Non, il dit, je ne prie pas que l'on soit retiré du monde, de Babylone. Je prie que tu les préserves du mal. Donc, pendant notre pèlerinage, pendant notre voyage. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Donc nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi-même aussi envoyés dans le monde. Donc nous sommes du monde et pas dans le monde. Bon, nous sommes dans le monde, oui. Comprenons, hein. Nous habitons au milieu des autres, nous habitons à Babylone, Paris, si on veut. Je suis enregistré, donc sur Internet, tout le monde va attendre que j'ai appelé Paris-Babylone. Mais bon, pas Sèvres-Babylone, hein, donc. Pas la station de métro, la ville de Paris, comme Marseille, comme Berlin, comme Londres, comme New York, comme partout. C'est le lieu de l'argent, des biens matériels, c'est pas ça. Nous, on est dans le monde parce que Dieu nous a envoyés dans le monde pour être ses témoins. Mais nous ne sommes pas du monde. J'ai déjà dit, mais c'est une petite pensée qui m'a toujours aidé, que nous devons être dans le monde, mais il ne faut pas que le monde soit en nous. Comme le bateau doit être dans l'eau, mais il ne faut pas que l'eau soit dans le bateau. Donc, comment ça coule. Donc, voilà, c'est une façon de le dire et de le comprendre. Donc, on est dans l'eau, mais il ne faut pas que l'eau soit en nous. Il faut que l'on soit dans le monde, mais il ne faut pas que le monde soit en nous. Donc, on ne se coupe pas des autres, mais on se réjouit d'être en voyage vers notre Jérusalem céleste. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier verset que j'ai lu, le chapitre 7 et le verset 1, dit ceci. « Puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous. » Il ne dit pas « Puisque nous avons de tels commandements, attention, d'être dans le monde. » Parce que tout au long du christianisme, il y a eu des gens qui ont voulu se couper du monde. Il y a des monastères, mais aussi des sectes. Qui vont acheter une maison dans les Pyrénées, je ne sais pas quoi, et se séparer du monde, par exemple. Ou bien, on va dire, attention, il ne faut pas que l'on soit trop en contact avec les non-chrétiens, on risque d'être souillé, ce n'est pas ça. Ce qui nous souille ne vient pas de l'extérieur de Jésus, mais ce qui vient de l'intérieur. C'est notre propre cœur qu'il faut purifier. Donc, de telles promesses, quelles sont ces promesses? D'abord, le verset 16, nous sommes, 2 Corinthiens chapitre 6, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, Dieu en nous, c'est ça qui fait la différence. À partir du moment où nous sommes pardonnés, l'Esprit Saint peut être en nous. Dieu peut être en nous, parce que nos péchés sont pardonnés. Et la deuxième belle promesse, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Autrement dit, et je reviens à ce que j'avais dit au début de ce petit message, notre vraie identité, c'est ça. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, Dieu habite en nous dans ce monde. C'est le choix radical de marcher avec Dieu, de sortir de Babylone. C'est ça le sens. C'est pas quitter Babylone physiquement, géographiquement, parce qu'on vit dans ce monde. Mais c'est dans la tête et dans notre comportement que nous ne sommes pas Babylone. La chose la plus fondamentale dans la vie, c'est de marcher avec Dieu avec un maximum de cohérence, comme 2 Corinthiens 7, verset 1 le dit. Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est ça, vivre dans l'attente, en tant qu'étranger et voyageur sur la terre en attendant la nouvelle Jérusalem. Bon, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ces deux villes symboliques me parlent beaucoup. Que nous sommes citoyens des cieux, mais nous sommes aussi citoyens de notre pays, à servir, à aimer les autres, mais avec la pensée que nous sommes citoyens des cieux. Et non pas, nous ne partageons pas la même façon de voir les choses que les autres autour de nous. Notre but, c'est de glorifier Dieu, parce que, il dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre.